Mathieu, hier, on parlait de cette intoxication monoxyde de carbone survenue dans une école. Et bon, là, on sait que tout le monde est correct. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et tu veux nous parler de technologie.
Oui, parce que la technologie peut effectivement offrir une solution pour être en sécurité. Maintenant qu'on sait, comme tu l'as dit, que tout le monde va bien, je pense qu'on peut inviter la techno comme ça à nous dire s'il existe des détecteurs dans ce genre. La réponse, c'est oui. Et probablement que ça a soulevé des inquiétudes liées au monoxyde de carbone et aussi à vos détecteurs de fumée. Inquiétudes légitimes. Oui. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se retrouve sur le marché pour un usage résidentiel des compagnies comme Halo Plus, Leo Smart Alert, OneLink et un des détecteurs de fumée les plus populaires connectés, c'est le Nest Protect. C'est dans le fond un détecteur de fumée qui va vous avertir avec une voix humaine si par exemple il détecte, oui, de la fumée ou encore du monoxyde de carbone. Et le détecteur comme tel va vous dire dans quelle pièce se trouve la fuite ou encore la fumée. Donc tous vos avertisseurs Nest Protect vont se déclencher en même temps en disant « Attention, présence de fumée dans la cuisine ». Donc, c'est la chose logique, pas seulement un bruit sans trop savoir d'où ça peut venir. Et en cas d'urgence, le Nest Protect peut dire à votre thermostat connecté d'éteindre votre chauffage pour empêcher la propagation du danger. Dans le cas d'une fournaise, ça peut être justement du monoxyde de carbone. C'est extrêmement intéressant. C'est des alertes aussi que vous recevez sur votre téléphone. Donc, pour éteindre une alarme, pas besoin nécessairement d'agiter un linge à vaisselle en haut du détecteur de fumée. Comme on a fait trop souvent, tu prends ton téléphone et tu confirmes qu'effectivement, c'est une alarme due à une rôtie qui brûle ou encore un cuisinier en herbe. Donc, honnêtement, la technologie est là pour nous offrir très souvent des solutions pour être en sécurité ou pour nous aider à mieux vieillir. On s'en est parlé durant le Consumer Electronics Show. Il y a des usages très importants qu'on ne peut pas ignorer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces détecteurs de fumée-là ou encore de monoxyde de carbone, dans le cas du Nest, pour lequel je me suis particulièrement intéressé, on teste aussi nos piles, on teste soi-même le détecteur, c'est-à-dire que le détecteur se teste lui-même. Nous, quand on fait le test pour savoir si nos batteries sont bonnes, on fait ça deux fois par année au changement d'heure, règle générale. Mais le Nest Protect va vérifier le niveau de ses piles puis l'état de ses capteurs 400 fois par jour. Donc, systématiquement, quand tu éteins les lumières chez toi, ben dans la pièce où tu as installé ce genre de détecteur, tu vas voir un petit rond vert pendant quelques instants pour te dire que tout est correct et que le détecteur a fait ses propres vérifications. Est-ce que c'est sans faille? Sans doute que non, mais je pense que aujourd'hui, en 2019, la technologie peut nous aider à éviter bien des soucis. Et l'idée de vous parler de ça, c'est pas d'accuser personne, mais simplement de rappeler que la technologie peut souvent offrir des solutions.
Le journal Le Monde revient sur un tweet qui a révolutionné la transmission de l'information.
Oui, un article de Morgan Towall fort intéressant qui nous rappelle cette histoire du Airbus A320 qui avait réussi à amerrir d'urgence sur le fleuve Hudson en plein New York. Tu te souviens sans doute
mais c'était
il y a 10 ans, jour pour jour, le 15 janvier 2009. Et il y avait à l'époque Janice Crumbs, un internaute, et son réflexe dans ce temps-là était plutôt ordinaire. C'est ce qu'on lit dans l'article. Il avait pris son iPhone, avait photographié l'avion sur l'eau, il l'avait mis sur Twitter. Le iPhone n'avait pas tout à fait 2 ans. Twitter était à ses premiers balbutiements, c'est-à-dire que c'était encore un réseau social marginal. Et ça a été une photo et la première photo d'un événement, je veux dire, extraordinaire qui arrive presque jamais. Et on dit que ça a marqué une rupture. C'est à ce moment-là que les médias traditionnels tombaient deuxième en matière de rapporter l'information rapidement. C'était un simple citoyen qui, avec son téléphone, avait carrément tout changé, selon, entre autres, un des fondateurs de Twitter. Il dit tout à coup, le monde a commencé à nous prêter attention. Si aujourd'hui ça se produisait, et c'est ce qu'on peut lire dans l'article, ben probablement que ça aurait été filmé, retransmis en direct sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, par des dizaines, peut-être même des centaines de personnes. Mais en 2009, c'était pas encore un réflexe d'être un peu ce nouveau genre de journalisme citoyen.
Et puis t'as pensé, ça fait 10 ans, c'est hier, là.
Ouais, et beaucoup de choses ont changé depuis. Évidemment, le journalisme citoyen est un peu apparu avec ça, pour le meilleur et pour le pire.
Ah oui.
Mais 15 janvier 2009, cette photo-là, moi, quand je l'ai revue aujourd'hui, j'ai fait aïe aïe, je me souviens de la force de l'instantanéité de la chose.
T'avais l'air de quoi, toi, il y a 10 ans? T'as peut-être une idée de challenge qu'on pourrait lancer sur les réseaux sociaux?
Mettons là, qu'on mettait des photos de nous il y a 10 ans, puis de nous d'aujourd'hui.
Hey, merci Mathieu, salut à demain.